Bienvenue dans Le Logement, comment ça marche ? Votre chronique hebdomadaire proposée par l'Agence départementale d'information sur le logement des Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous. Le chiffre a été publié par les notaires de France. À la fin mai de l'année 2021, le volume de vente de logements anciens en cumul sur les 12 derniers mois a atteint le chiffre d'1 130 000 transactions, un niveau record depuis 2000. Lorsque l'on sait que selon une étude réalisée en 2016 par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, environ 60% des ventes immobilières sont réalisées par l'entremise d'un agent immobilier et qui perçoit en moyenne entre 3 et 8% du prix de vente, il n'apparaît pas inutile de s'intéresser de plus près au mandat de vente, outil indispensable à la concrétisation de cette opération juridique. Pour en parler, j'ai à côté de moi Thierry Moilic, le directeur de la DIL des Bouches-du-Rhône. Bonjour Thierry.
Bonjour Manon.
Afin que chacun puisse bien comprendre le sujet du jour, est-ce que vous pourriez nous définir simplement le mandat de vente immobilier ?
Oui, le mandat de vente immobilier, c'est le contrat par lequel le propriétaire d'un bien immobilier confie à un agent immobilier la charge de vendre son bien à un acquéreur à un certain prix et moyennant une rémunération qu'on appelait commission. Aujourd'hui, il y a lieu de parler d'honoraires.
Et le contenu de ce mandat est réglementé.
Oui, tout d'abord, la loi Auguet du 2 janvier 1970 exige de tout professionnel qu'il soit titulaire d'un mandat écrit préalablement à toute démarche propre à l'accomplissement de la mission. Cet écrit, qui doit être rédigé en autant d'exemplaires que de parties intéressées, est une condition de validité du mandat. À défaut, le professionnel ne saurait prétendre à une quelconque rémunération. Par ailleurs, ce mandat doit comporter certaines mentions obligatoires prescrites à peine de nullité, ainsi que des mentions expresses dont le professionnel ne peut pas se prévaloir si elles n'ont pas été stipulées. Le mandat doit enfin être reporté sur le registre des mandats.
Alors justement, quelles sont les mentions obligatoires ?
Je vais en évoquer les principales. On a d'abord le numéro d'inscription au registre des mandats sur l'original délivré au propriétaire. Ensuite, l'identité de l'agent immobilier, comprenant notamment son numéro de carte professionnelle, ainsi que la chambre de commerce et d'industrie territoriale qu'il a délivré et le nom et adresse de sa garantie financière. L'identité du propriétaire vendeur, l'objet du mandat, c'est-à-dire la désignation précise du bien à vendre ainsi que son prix, et enfin la rémunération de l'agent immobilier et la partie à qui elle incombe, vendeur ou acquéreur.
Quoi d'autre ?
Le mandat doit également mentionner sa durée, qui est nécessairement limitée. Le mandat doit détailler les pouvoirs confiés au mandataire, la nature du mandat, simple, exclusif ou semi-exclusif, nous y reviendrons, ainsi que le pouvoir éventuel de conclure la vente et de percevoir des fonds. Enfin, le document doit aussi prévoir les modalités dans lesquelles l'agent doit rendre compte à son mandant de l'exercice de sa mission.
Il y a quand même certaines mentions qui, sans être obligatoires, nécessitent de figurer au mandat afin de pouvoir être mises en œuvre.
En effet, le mandat peut être assorti d'une clause d'exclusivité, d'une clause pénale, ou comporter une clause au terme de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, qu'on appelle communément un droit de suite. Ces clauses, bien qu'elles aient des objectifs différents, répondent bien entendu à des conditions communes.
Avant d'aborder les spécificités de chacune, pourriez-vous déjà nous indiquer succinctement quelles en sont ces conditions communes ?
Oui, ces conditions communes sont en réalité des règles de forme. Afin que le propriétaire prenne conscience de l'étendue de son engagement, ces clauses doivent être expresses et apparaître en caractère très apparent dans le mandat. Si tel n'est pas le cas, l'agent immobilier ne pourra pas s'en prévaloir et la clause ne pourra recevoir application. De plus, elles doivent être rédigées dans des termes clairs et précis afin de permettre au propriétaire de connaître leurs conditions de mise en œuvre. Enfin, il devra être indiqué que, passé un délai de 3 mois, le mandat pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin, d'en aviser l'autre partie, 15 jours au moins, à l'avance, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
On va se pencher davantage sur les natures des clauses, en commençant peut-être par celle d'exclusivité. À quoi ça correspond ?
La loi prévoit en effet la possibilité d'insérer dans le mandat une clause d'exclusivité qui place ainsi l'agent immobilier en situation de monopole pour réaliser l'affaire, tant et si bien que le propriétaire ne peut céder lui-même son bien directement à un acquéreur, ni confier cette mission à un autre agent immobilier. lorsque le mandat contient une telle clause. Je l'ai dit, il doit être indiqué que, passé un délai de 3 mois, le mandat peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties.
Alors le propriétaire, on le comprend, n'a plus aucune marge de manœuvre pendant la durée de l'exclusivité, mais est-ce qu'il peut au moins s'assurer que toutes les diligences nécessaires à la vente sont bien accomplies par le professionnel ?
Effectivement, dans un tel contexte, le mandant est en droit d'attendre que l'agence immobilière se mobilise davantage, car elle sera assurée de la rémunération de ses démarches. C'est pourquoi la loi Allure a apporté plusieurs changements au contrat de mandat. Aussi, s'il s'agit d'un mandat exclusif, il doit préciser les actions que le mandataire s'engage à réaliser pour exécuter les prestations, la prestation qui lui a été confiée, ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.
Le propriétaire a malgré tout le choix de consentir d'autres types de mandats, les mandats immobiliers n'étant pas par nature exclusifs.
Non, bien sûr. Il y a 2 autres types de mandats, simples et semi-exclusifs.
Et quelles sont les différences ?
Alors, le mandat simple permet au propriétaire de jouir d'une totale liberté, puisqu'il lui permet de confier à plusieurs agents immobiliers la vente du bien objet du mandat, tout en conservant le droit de la réaliser lui-même. Ainsi, les honoraires ne seront dus qu'à l'agence immobilière qui aura permis la réalisation de l'affaire, sauf si la vente est réalisée par le vendeur lui-même, cela va de soi.
Et quant au mandat semi-exclusif ?
Il s'agit d'un entre-deux. Il permet de donner un mandat exclusif à une seule agence immobilière tout en conservant la possibilité de vendre par lui-même. Le mandant ne doit ni rémunération ni dédommagement s'il vend son bien en direct, sauf si une clause du mandat prévoit un honoraire réduit dans cette hypothèse. Comme pour le mandat exclusif, la clause doit, à peine de nullité, être expresse et apparaître en caractère très apparent.
Merci pour ces précisions. Permettez-moi tout de même de revenir sur l'une des clauses susceptibles d'être insérée au mandat qui offre à l'agent immobilier un droit de suite sur le bien qu'il a fait visiter.
En effet, peu importe la nature du mandat, exclusif ou non, il peut y être inséré une clause interdisant au vendeur de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur présenté antérieurement par l'agence, cette interdiction s'appliquant pendant la durée du mandat, mais aussi au-delà de cette période contractuelle. Une telle clause est valable si elle respecte les conditions de forme qu'on a évoquées ensemble, mais elle doit également être limitée dans le temps, sous peine d'être considérée comme abusive.
Et que se passe-t-il si le propriétaire ne respecte pas les engagements issus du mandat ?
Vous amenez l'entretien vers la dernière clause dont je voulais parler, à savoir la clause pénale, qui est effectivement une clause par laquelle le propriétaire, s'il manque à son engagement envers l'agent immobilier, doit lui verser une somme d'argent dont le montant forfaitaire est fixé à l'avance. Cette clause pénale peut sanctionner la violation du droit d'exclusivité ou celle du droit de suite ou encore tout autre engagement auquel le propriétaire aurait souscrit.
Et qu'en est-il du bon de visite que de nombreux agents immobiliers font signer ?
En pratique, les agents immobiliers font signer un bon de visite lorsqu'ils ne disposent pas d'un mandat exclusif. Ce document est issu de la pratique et n'est imposé par aucun texte et donc non obligatoire. Il est en réalité utilisé par les professionnels pour prouver leur intervention dans la réalisation des transactions qui leur sont confiées. En effet, l'agent immobilier doit pouvoir justifier de ses démarches tant à l'égard d'acquéreurs indélicats qu'à l'égard des mandants soucieux de savoir si des diligences sont effectuées conformément au mandat consenti. En pratique, le bon de visite mentionne classiquement 3 séries d'informations. Tout d'abord, l'identité de l'acquéreur ou des personnes pour qui l'agent effectue la visite. Ensuite, l'adresse du bien visité, sa description sommaire et ses caractéristiques. Et enfin, la mention du numéro du mandat permettant à l'agent de mener la visite.
Il est difficile d'appréhender la valeur juridique du bon de visite. Est-ce qu'il permet à l'agent immobilier de réclamer le versement de ses honoraires dès lors qu'il a fait visiter le bien et même si la vente est intervenue sans lui ?
Alors, les dispositions de la loi Auguet étant d'ordre public, aucun document ne saurait remplacer un mandat régulièrement enregistré pour faire valoir un droit à des honoraires. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un bon de visite ne permet pas à un agent immobilier de percevoir quelque rétribution que ce soit s'il ne détient pas de mandat. Néanmoins, en pratique, la plupart des modèles de bons de visite du commerce prévoient pourtant des clauses interdisant aux visiteurs de se porter acquéreur des biens présentés sans passer par l'agent bénéficiaire de ce document pendant une certaine durée. Ces clauses ne sont d'ailleurs pas jugées abusives, mais un bon de visite n'a pas valeur de mandat et la jurisprudence considère que de telles mentions sont sans efficacité juridique.
Et si l'acquéreur ne traite pas directement avec le vendeur mais fait appel à une autre agence dont la commission est inférieure ?
Eh bien, le droit à commission suppose une intervention déterminante de l'intermédiaire. Or, en cas de mandat sans exclusivité, la transaction peut être réalisée par un autre intermédiaire. C'est pourquoi la jurisprudence rejette régulièrement les demandes d'indemnité d'agence se prévalant simplement d'un bon de visite qui parviendrait à démontrer qu'elles ont fait visiter le bien avant celle qui a perçu des honoraires. Que la transaction aboutisse directement entre vendeur et acquéreur ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel, l'agent évincé pourra toujours être indemnisé du préjudice subi en cas de fraude caractérisée du client dont il devra apporter la preuve. Compte tenu des difficultés probatoires, la clause pénale s'avère plus efficace.
Merci à notre expert Thierry Moalic. Grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur le mandat de vente immobilier et sur les nombreuses subtilités juridiques qu'il comporte. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le sujet, n'hésitez pas à contacter les conseillers juristes de l'ADIL ou à consulter le site internet www.adil13.org. Rendez-vous mardi prochain pour un autre sujet dans le logement, comment ça marche ?